Vous écoutez RTL.
RTL Soir, les grands témoins.
Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL. Ce soir, les hommes de l'ombre d'Emmanuel Macron, ceux que l'on appelle les cerveaux du président, refont le monde sur RTL. Ismaël Emelien et David Amiel, qui viennent tout juste de quitter l'Elysée, sont les grands témoins d'RTL Soir jusqu'à 20h. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Merci à vous.
À mes côtés, pour vous interroger, l'incontournable Alain Duhamel. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Vous étiez donc jusqu'à hier soir les conseillers d'Emmanuel Macron. Vous publiez « Le progrès ne tombe pas du ciel » chez Fayard. C'est un peu le petit livre rouge du macronisme, ou plutôt, comme vous l'appelez, du progressisme. On va en parler largement jusqu'à 20h ensemble. Devoir faire un livre 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron pour expliquer finalement les fondements de sa politique, est-ce que c'est pas déjà un constat d'échec? Ça n'a pas été suffisamment bien perçu, donc vous vous y collez.
Oui, c'est clair. Un des ressorts de notre envie d'écrire et de publier ce livre, c'était le décalage qu'on ressentait entre la caricature qui était faite et du président et de son action, la perception qu'en avaient les Français, assez largement, et puis la réalité de ce que nous, on vivait, et puis de ce qu'on voulait faire. Et c'est pour tenter de réduire l'écart entre la caricature et la réalité qu'on a voulu faire ce livre.
Dans quel but, pardon? Le but d'expliquer, mais aussi de réconcilier le président avec les Français?
Alors, c'est une des raisons, il y a d'autres raisons.
Mais il y a celle-là, de réconcilier les Français, avec le président?
Je ne crois pas qu'il ait besoin d'être réconcilié avec les Français. Je pense en revanche qu'on a besoin de placer le débat sur la réalité de ce qui est fait et de ce qui est dit, et un peu moins sur les images et les caricatures des uns et des autres. Et
donc, on va revenir en détail sur le progressisme qui est au centre de votre raisonnement, évidemment. Mais on voudrait d'abord revenir rapidement sur vos 2 années à l'Élysée. Depuis que Emmanuel Macron a été élu, il y a eu des réformes. Bon, certaines qui ont réussi, d'autres plus difficiles. Il y a eu des traverses, l'affaire Benalla, la crise des Gilets jaunes, etc. Et alors, l'hebdomadaire Le Point résume ça en disant on est passé de la Dream Team, faudrait dire du Dream Team d'ailleurs plutôt, aux stagiaires. Et en fait, quand on est, alors je ne dis pas ça à cause de mon âge, mais quand on est aussi jeune que vous et qu'on se trouve au cœur du pouvoir, de façon un peu inattendue, est-ce qu'on ne se sent pas décalé? Est-ce que... Alors, anxieux, le cas échéant?
Alors, on a été anxieux tous les
David
jours.
Damien.
On s'est tous les jours inquiété de savoir si on était décalé ou pas. Enfin, honnêtement, c'est une question qu'on se pose, pas une fois par jour, mais 100 fois par jour. Ouais. Ensuite, je tiens quand même à rassurer tout le monde sur le fait qu'on avait une équipe qui avait des gens très jeunes.
Oui, qui était Ismaël, en moyenne quand même très jeune pour l'Élysée.
Non, mais il y avait des gens qui avaient une quarantaine d'années. C'est le cas de Sylvain Faure, qui était la plume du président, du secrétaire général de l'Élysée.
Alexis
Donc,
Scolaire,
je crois que ce qu'on avait réussi à créer dans cette équipe, à la fois de campagne et ensuite celle qui accompagne aujourd'hui le président à l'Élysée et encore, c'est plutôt une diversité.
Mais donc, vous n'avez pas manqué d'inexpérience tous ensemble à l'Élysée depuis 2 ans, ce qui expliquerait ce constat d'échec que vous êtes en train d'essayer de restaurer.
Alors, moi, je ne crois pas du tout que ce soit à cause de l'expérience.
Ismaël Emilien, bon. Vous avez 32 ans, vous étiez le conseiller spécial, c'est un titre important, les gens ne le savent pas, mais c'est flatteur, disons. Avant que Emmanuel Macron ne soit élu, vous étiez présenté à tort ou à raison comme sa boîte à idées, on a dû vous ressortir le QG je ne sais pas combien de fois. Quel était votre rôle spécifique ?
À l'Élysée. Mon rôle était, à la différence de la plupart de mes collègues, de ne pas être chargé d'un sujet en particulier. À l'Élysée, il y a des conseillers pour l'industrie, pour l'environnement, pour la culture, etc. Moi, j'avais pas de sujet en particulier. Et donc, mon rôle était d'avoir le luxe de passer du temps pour essayer de définir ce que devait être l'horizon en levant un peu le nez du guédon, donc à quelques mois ou à quelques années, et tenter de bâtir les voies et moyens d'y parvenir. Pour le président, du coup, pour la majorité. En tout cas, de proposer des perspectives.
Et David Amiel, vous avez 26 ans. On vous dépeint comme un prototype du macronisme. C'est une citation, le bras droit d'Alexis Scolaire, le secrétaire général. Qu'est-ce que vous faisiez précisément?
Moi, pendant la campagne, je m'occupais de coordonner la préparation et l'élaboration du programme. J'ai fait ça jusqu'en mai 2017.
Et
ensuite, à l'Élysée, j'ai travaillé donc auprès du secrétaire général Alexis Scolaire, qui est le premier collaborateur du président, sur sa mise en œuvre quotidienne.
Ces derniers mois, il y a eu pas mal de départs autour d'Emmanuel Macron, les vôtres depuis hier, Gérard Collomb au gouvernement, Nicolas Hulot. À l'Élysée, vous citiez tout à l'heure Sylvain Faure qui s'occupait de la communication. Il y a besoin d'un nouveau souffle, vous diriez, pour relancer le quinquennat, un nouvel élan?
Non, je crois que les départs dont vous parlez en tout cas pour ceux que moi je connais personnellement, qui étaient nos collègues à l'Élysée, c'est des départs qui sont naturels compte tenu du rythme.
La lessiveuse de l'Élysée, quoi. Quand on travaille à l'Élysée, c'est une lessiveuse.
Surtout pour le coup, pour des personnes qui sont un peu plus âgées que nous le sommes, qui ont une famille, et pour lesquelles les sacrifices sont encore plus lourds qu'ils ne l'étaient.
Mais du point de vue du président, est-ce qu'à un moment donné, aussi, et ça a été le cas dans le précédent quinquennat, il y a aussi besoin de se régénérer à travers des nouveaux regards? Ou alors pas du tout?
Je pense que ce qui est surtout important, c'est de se poser la question de là où on est le plus utile. Donc, quand on est engagé politiquement, nous, on n'était pas au gouvernement avant 2017. On y a passé 2 ans et on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on était les plus utiles. On a considéré qu'on était plus utile en écrivant un livre, en venant défendre auprès des gens, que dans notre poste à l'Élysée au bout de 2 ans. Et c'est une question qui s'est posée aussi à d'autres. Stéphane Séjourné était le conseiller politique. Il a considéré qu'il était plus utile à faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire à diriger la campagne.
Je comprends, ça c'est votre point de vue, mais du point de vue du président, est-ce que l'utilité aussi pour lui, c'est peut-être de retrouver du 109?
C'est pas comme ça que ça a été construit. Donc le président, évidemment, on aura des successeurs.
Pardon ? Vous ne vous sentez pas sans CNG vieux ?
Non.
Non. 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les résultats sont, disons, contradictoires. En tout cas, le chômage est encore haut. Quel bilan vous faites de l'efficacité économique d'Emmanuel Macron ? Parce qu'au fond, en matière économique, ça fait 4 ans qu'il joue un rôle déterminant.
Je crois que sur le chômage, sur le chômage, il y a deux éléments, je crois, centraux. Le premier, c'est qu'il a quand même baissé. On a pris, il est passé de près de 9,5% à aujourd'hui en dessous de 9%. On retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la crise économique. Mais surtout, et je crois que c'est le plus important, le chômage a changé de nature. Quand on est arrivé aux responsabilités, le problème était que les entreprises avaient peur d'embaucher. Et depuis les ordonnances travail, le problème a changé de nature. Et le problème maintenant est que les entreprises ont du mal à recruter.
Parce ça vous paraît toujours aussi compétences. Vrai après les Gilets jaunes, cette psychologie, ce comportement des chefs d'entreprise, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu de stress, non ?
Si, il y en a très certainement. Je crois quand même que la difficulté profonde de notre économie aujourd'hui ne vient pas des Gilets jaunes. La difficulté profonde de notre économie, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver des compétences pour développer leurs activités. C'est un sujet qu'on a qui vient à la fois des défaillances de notre système éducatif, des défaillances de la formation professionnelle, qui pour le coup prend plusieurs mois, plusieurs années à réparer, parce qu'il faut à la fois réparer le système et ensuite il faut permettre aux gens de s'en emparer. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de mois et beaucoup d'années devant nous pour y répondre.
Mais en dehors des entrepreneurs qui ne trouvent pas le personnel qualifié dont ils ont besoin pour des tâches spécifiques, il y a aussi beaucoup de chômeurs qui, eux, ne trouvent pas le chef d'entreprise qui pourrait les employer.
Bien sûr, et puis il y a surtout beaucoup de chômeurs qui ne trouvent pas la formation dont ils ont besoin. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la formation professionnelle bénéficiait d'abord aux cadres et aux salariés avant de bénéficier aux chômeurs et à ceux qui n'avaient pas de
diplôme. Donc sur le bilan que vous faites, notamment au travers du chômage, mais grosso modo, c'est que vous avez pris la bonne voie, le cap est le bon, quoi. C'est ce que vous dites ce soir après 2 ans.
Absolument.
Le cap est le bon.
Absolument.
Donc là-dessus, il n'y a pas d'autocritique, vous n'êtes pas dit, je ne parle pas des erreurs politiques, mais il y a...
C'est une bonne question.
Grosso modo, la promesse avec laquelle est arrivé Emmanuel Macron, elle est respectée, et là-dessus, il y a peut-être des erreurs qu'on verra tout au long de l'émission, mais pas de cap. Hein.
Non. Je vous avais parlé des Gilets jaunes, et je pense que c'est intéressant de noter que ce que les Gilets jaunes disent correspond exactement à ce que nous, on disait pendant la campagne. Sur au moins 2 points qui sont centraux. D'abord, le fait qu'ils revendiquent le droit de vivre de leur travail, qu'ils ne revendiquent pas l'augmentation des minima sociaux, ils ne revendiquent pas un grand soir fiscal. Et ils disent également ne pas se reconnaître ni dans la gauche ni dans la droite. Donc ça, c'est 2 piliers sur lesquels Emmanuel Macron avait bâti sa campagne. Le fait que 2 ans après, ils nous le redisent, évidemment, ça interpelle et évidemment, ça veut dire que, indépendamment du fait que le cap était bon, parce qu'il est vérifié par ce qu'ils disent, les résultats sont encore très très loin d'être au niveau de ce qui est attendu, de ce qui est nécessaire pour qu'ils soient perçus et que la réalité des premiers concernés évolue.
On y revient dans un instant.
RTL Soir, les grands témoins
avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugier.
Les grands témoins de RTL jusqu'à 20h ce soir, les ex-conseillers d'Emmanuel Macron, David Amiel et Ismaël Emelien, à l'occasion de leur livre « Le progrès ne tombe pas du ciel », manifeste chez Fayard.
David Amiel, dans le livre, vous opposez évidemment le populisme au progressisme, mais pour bien clarifier les choses, pour vous, être progressiste, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, pour nous, être progressiste, c'est répondre à 3 principes. C'est ceux qu'on énonce dans le livre, et puis évidemment qu'on détaille et qu'on explique. Le premier principe, c'est un objectif, et c'est de maximiser les possibles des individus, c'est-à-dire permettre à chacun de choisir sa vie, lui donner ces moyens-là. Le deuxième principe, c'est une condition, c'est de le faire ensemble. Donc le progressif que l'on défend n'est pas du tout un individualisme. Si on raisonne à l'absurde, on parlait du chômage.
Ensemble, toute la société.
Exactement. Et c'est redonner à chacun les moyens d'agir avec les autres. Et ça nous amène au troisième principe qu'on met en avant.
Pardon, je vous interromps là-dessus. Vous dites ensemble, alors que ce qu'on avait compris, en tout cas ce qu'on reproche au président de la République, c'est l'individu d'abord, les autres après. Donc vous réexpliquez les choses. Là, il y avait une forme d'ambiguïté.
Probablement, parce que c'était aussi quelque chose qui était à la racine de la création d'En Marche. Mmh. Quand En Marche a été créée, on partait de rien. On n'avait pas d'État, on n'avait pas de financement public, on n'avait pas d'élus. La seule chose qu'on avait, c'était un appétit énorme des gens pour s'engager. Mmh. Et c'est à partir de ça qu'on a réussi à construire un mouvement politique qui a attiré des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de personnes. Et en arrivant au pouvoir en mai 2017, on est un peu passé à l'extrême opposé. Et donc on a gouverné depuis l'État, d'une manière administrative, juridique, technique, au fond très classique, et on a perdu ce lien avec les gens, avec la société.
Et vertical peut-être aussi.
La verticalité, c'est un élément qui est indispensable à la conduite de l'action politique, à fortiori quand on est président, parce que c'est ça qui permet de décider et donc d'avancer. Ça n'a jamais été exclusif d'une forme d'horizontalité qui implique justement à la fois dans la préparation du diagnostic sur lequel sont bâties les décisions et puis surtout dans la manière... Non,
certainement, il y a les deux qui vont ensemble, sauf que la verticalité, elle a pris le pas, en tout cas dans l'opinion, sur l'horizontalité. Il y avait certainement de l'horizontalité, mais il a incarné tellement fort la fonction...
C'est un des objets de ce livre que de répondre à ça, justement.
Alors, vous dites, David Amiel, enfin, vous dites tous les deux, d'ailleurs, que la droite et la gauche sont mortes, qu'il n'y a plus de parti, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une part de progressisme dans chacune des deux familles originelles, en tout cas, peut-être passées, mais originelles ?
Pendant très longtemps, le progrès, c'est ce qu'on explique aussi dans le livre, c'est construit grâce à la gauche et grâce à la droite. Si je caricature un peu, la droite apportait de la liberté économique, la gauche apportait de l'égalité, de la redistribution. Et on avait besoin des deux. Oui. Et puis la gauche apportait des progrès en matière de société, le droit de vote des femmes, l'avortement, qui est voté quand même grâce aux socialistes, l'abolition de la peine de mort, et puis la droite, en quelque sorte, adaptait ses progrès sociétaux à l'état de la société. Et c'est ça, cette alternance entre la gauche et la droite, qui a construit quelque chose quand même d'extraordinaire, qui est tous les grands progrès.
Mais là, vous parlez au passé, mais aujourd'hui.
Mais justement, et donc aujourd'hui, on considère que cette mécanique s'est épuisée, et qu'il y avait toujours des progressistes au sein des camps de la gauche et au sein des camps de la droite, mais que ces progressistes étaient isolés dans des partis qui ne l'étaient plus. Et donc le propre d'En Marche, ça a été de vouloir réunir ces progressistes par-delà les partis.
Et ces partis-là, aujourd'hui, ils sont morts pour vous ?
Ouais, ils sont pas morts au sens où ils existent toujours.
Oui, mais ils jouent plus dans l'espace politique ?
Bah, nous, on fait le pari que la politique ne sera plus jamais comme avant. Et que donc, tant que les partis dont vous parlez ne trouvent pas des moyens de renouveler le terrain de l'affrontement, et qui ne peut plus être l'affrontement entre la gauche et la droite, pour plein de raisons qu'on peut développer si vous voulez, alors, effectivement, les choses ne seront plus jamais comme elles ont été.
Mais le Rassemblement National ou les Insoumis, est-ce que d'une certaine façon, ce ne sont pas aussi des mouvements post-partis, autres que des partis, comme la République En Marche ?
C'est bien pour
Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une concurrence entre des mouvements qui succèdent aux partis ?
Alors c'est possible, en tout cas c'est pour ça que de facto aujourd'hui l'affrontement qui structure le paysage politique en France mais dans tous les pays occidentaux, c'est l'affrontement qui oppose les progressistes aux populistes. Vous avez parlé à la fois de la France insoumise et du Front National, c'est le camp des populistes.
Excusez-moi, mais en Europe c'est un petit peu plus compliqué parce que face au populisme, il y a ce que vous appelez des progressistes, mais des progressistes, il y en a qui pour le coup se disent de gauche, sociaux-démocrates, et d'autres qui se disent de droite, par exemple, au Parti Populaire Européen. Bon, ce ne sont pas les mêmes.
Non, absolument. C'est pour ça que, c'est ce que disait David à l'instant, il y a des progressistes partout, et on en est ravis, et c'est une des raisons pour lesquelles on a de l'espoir pour l'avenir.
Mais vous appelez progressistes aussi ceux qui sont des chrétiens-démocrates.
En fait, nous, la spécificité de notre livre, c'est précisément qu'on ne veut pas appeler progressistes les gens à leur place. On fait une proposition avec ce livre qui est une proposition idéologique, et pour nous, les progressistes sont ceux qui s'y reconnaissent. S'ils sont dans d'autres partis, c'est presque
tant mieux. Les progressistes sont ceux qui adhéreront à votre livre.
À nos yeux, oui.
Intellectuellement,
c'est comme ça qu'on le définit.
Absolument. Mais on voit bien votre volonté, mais les moyens pour pouvoir transformer cette société, c'est quoi en fait ? Les moyens sur quoi vous appuyez ?
Donc là, on arrive à quelque chose qui est essentiel pour nous, qui est tiré de l'expérience de ces deux dernières années, et qui est de considérer qu'à chaque moment politique a correspondu à un instrument. Donc, pour schématiser un peu, pour la gauche, c'était les syndicats, pour la droite, c'était les notables, et on pense que pour le progressisme, ça doit être les citoyens. Et surtout que ça arrive à un moment, à une période...
Donc pas les corps intermédiaires, quoi.
Non. à un moment dans lequel les outils technologiques qui existent et la manière dont les individus se comportent aujourd'hui rendent cela possible. Et c'est pour ça que ce livre, c'est un appel à dépasser la politique au sens à la fois partisan et même électoral, et d'aller porter le combat progressiste au cœur de la société par d'autres moyens, soit au niveau de l'individu, soit au niveau des associations.
Est-ce que les gilets jaunes, en fait, ça n'est pas la première manifestation de ce que vous appelez de vos voeux ? C'est des citoyens qui s'expriment et qui entrent dans le débat ?
Bah, pour nous, les gilets jaunes, c'est la validation du fait que la politique ne sera plus comme avant dans ses formes de mobilisation. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une période politique où ce qui comptait, c'était d'abord les organisations. Au fond, ce qui créait une manifestation, c'était un mot d'ordre, un appel de la CGT. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les gens ont la capacité de s'organiser, de s'auto-organiser.
Ouais, peut-être de façon plus perfide, est-ce que cette première manifestation de citoyens prenant une part du pouvoir que vous appeliez de vos voeux, est-ce qu'elle n'a pas un profil légèrement inquiétant ?
Comme toute transformation technologique, comme toute transformation de société, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Si vous aviez été peut-être un peu moins perfide, vous auriez pu prendre l'exemple du grand débat, qui est aussi un moment post-crise aiguë des Gilets jaunes, où milliers de Français sont allés discuter, échanger sur des problèmes de politique publique, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques décennies.
C'est vrai, mais ils ont été invités à le faire. Oui, alors que les Gilets jaunes se sont invités à le faire.
Mais tout l'enjeu pour nous, et d'ailleurs je crois bien au-delà de nous, c'est de réussir à canaliser cette énergie, cette envie de faire dans le temps, et donc de se doter des instruments qui le rendent possible.
Vous avez lu une interview de Bernard Cazeneuve dans Le Monde qui trouve que vous jouez avec le feu. Il ne s'adresse pas à vous, mais au président de la République. À force de théoriser la transgression, la disruption, la rupture sur tous les sujets, lorsqu'on est en situation de responsabilité politique, on finit par créer les conditions qu'elles se produisent dans la rue, dans l'abandon de toutes les valeurs qu'on a en commun. Il y a une responsabilité, finalement, des élites, du président, dans les fractures françaises.
Alors, il y a deux questions différentes dans votre question. Est-ce qu'il y a une responsabilité des élites dans les fractures françaises ? Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est ce qu'on essaie de décrire dans le livre. Le bilan, l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le pays, ceux qui en sont comptables, c'est ceux qui l'ont dirigé pendant longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on explique que et la gauche et la droite.
Non, mais le fait que le dentifrice soit sorti du tube, grosso modo, est-ce que là, vous étiez visé directement ?
Oui, ça, je ne crois pas, en revanche. Je ne crois pas que le président ou la majorité ait une responsabilité particulière dans le fait, en ayant inventé des méthodes nouvelles de faire de la politique et d'agir dans le fait de créer des mouvements tels
que. Donc, le fait que ça intervienne dans le quinquennat Macron, c'est un hasard. C'est pas dû à Emmanuel Macron.
Je pense que sur les sujets sur lesquels ils se sont mobilisés, évidemment, c'est dû à Emmanuel Macron. C'est une réaction à des décisions politiques qui ont été prises. En revanche, sur le fait qu'un mouvement spontané qui intervienne pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Vous pensez que c'était possible dans le quinquennat précédent ? Il n'y avait pas les garde-fous nécessaires, des corps intermédiaires qui jouaient leur rôle.
Pardon, mais les corps intermédiaires étaient tout aussi affaiblis sous le quinquennat précédent. Le taux de syndicalisation, il n'a pas attendu Emmanuel Macron pour chuter et pour atteindre des planchers dérisoires.
Vous dites, nous faisons le pari que demain, des franges des catégories supérieures basculeront aussi dans la révolte. Des catégories supérieures qui basculent dans la révolte, j'ai un peu réfléchi, depuis 1848, il n'y a pas eu énormément d'exemples. Alors c'est quoi ? On est à un tournant historique ?
Non, c'est quand on pensait notamment à la situation américaine, on voit que l'élection de Donald Trump, donc le président populiste par excellence, s'est fondée non seulement sur les classes populaires, mais aussi sur une partie des classes moyennes supérieures. Parce que la frustration dont on parle, ce sentiment que le progrès a été confisqué par quelques-uns depuis 30 ans, et que tout ce à quoi on nous appelle, c'est-à-dire à une économie de l'innovation, alors qu'on voit que les carrières professionnelles sont toujours plus difficiles, à changer de métier, alors qu'on voit qu'on enchaîne les CDD, tout cela concerne bien plus que seulement les plus pauvres ou les plus fragiles de la société. Ça concerne aussi une grande part des classes moyennes. Et c'est pour ça que ça conduit à des révoltes face à l'ensemble des élites politiques. Parfois, ça bénéficie aux progressistes. Et au fond, c'est de ça dont on a bénéficié en 2017.
Ouais, mais ce sont
parfois,
pas
ça bénéficie aussi
aux
populistes. Bah, tout notre pari, c'est de capter cette révolte pour le meilleur, en tout cas pour ce qu'on décrit dans le livre.
On revient dans un instant à la suite des grands témoins de RTL. Le progrès ne tombe pas du ciel. David Amiel, Ismaël Emelia.
RTL Soir, les grands témoins
avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugier.
À 19h42, donc retour sur RTL des grands témoins, David Amiel, Ismaël Emelien, les apôtres du macronisme sont avec nous jusqu'à 20h, la sortie du progrès ne tombe pas du ciel chez Fayard. Alain Duhamel, évidemment, donc toujours à mes côtés. On a bien compris votre diagnostic, il éclaire les actes. Est-ce que, une fois que vous avez posé tout ça, et vous y avez réfléchi depuis longtemps, vous avez accompagné le président dans la campagne, vous avez réussi tous ensemble à son élection. 2 ans après, vous voyez, on parle des gilets jaunes, on va parler d'autres choses dans l'actualité, vous ne dites pas, c'est super d'avoir théorisé, mais c'est mieux de réussir en fait.
C'est clair, Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre à cette question.
Non, mais donc, comment vous, quand vous faites une sorte de mea culpa, vous bah, dites nous, c'est quoi le sujet nous, la réflexion moment, est là, les bah, cerveaux, nous, sont, a, les cerveaux ouais, fonctionnent ouais, tous ensemble. Nous, a, vous dites bah, quoi c'est d'abord, la déconnexion avec, avec le peuple, parce que finalement, c'est bien de bien réfléchir, mais c'est bien aussi de vivre au milieu a, des gens, et peut-être que vous n'aviez pas d'élus, et donc les choses ne remontent pas, j'en sais rien. C'est quoi le constat, en fait?
D'abord, nous, on a toujours aimé à la fois réfléchir et agir. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de risques par le passé sur beaucoup de sujets, et qu'on continue de le faire. Et on n'a pas changé, on n'a pas vécu différemment en étant à l'Élysée qu'avant. J'ai toujours mon vieux scooter, j'habite toujours dans le même appartement. Je veux dire, il n'y a pas eu de, je pars comme je suis entré. Il n'y a pas eu de changement dans ma vie qui me aurait fait de moi quelqu'un de déconnecté. Il y a eu un moment pour nous assez révélateur qui est intervenu au 1 an de l'élection d'Emmanuel Macron. Mmh. Une grande étude qui a été publiée par le Cevipof et Ipsos qui montrait que pour 95% des Français, la situation, leur situation personnelle était perçue comme n'ayant soit pas bougé, soit s'étant dégradée. Mmh. Un an après, malgré tout le travail que nous on avait fourni, tous les efforts qu'on avait réalisés, tous les résultats qu'on pensait avoir atteints, bah, la perception était radicalement opposée. Bon. Ça, c'est un énorme signal d'alarme, et ça montre qu'on a raté cette partie-là. Ça, c'est clair et net.
Est-ce que c'est à ça que vous faisiez allusion quand vous parlez de société de la frustration? Est-ce que c'est le décalage entre le possible souhaitable et le possible réel?
En tout cas, c'est un décalage entre ce à quoi les gens aspirent légitimement, donc, qu'on résumait par la phrase de choisir sa vie, et ce à quoi ils ont droit. Je pense, personne ne demande l'impossible. Personne ne demande à que la politique promette le bonheur. Tout le monde a bien compris que ce n'était pas le monde dans lequel on vivait. Par contre, ce que les gens demandent, c'est que leurs efforts puissent payer. C'est que si ces enfants travaillent bien à l'école, bah, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ils pourront réussir. C'est que si on est ouvrier et que on travaille, on veut se former, etc., bah, on puisse devenir cadre. Et tout ça, c'est devenu impossible dans la société d'aujourd'hui. Et depuis 2 ans, ça n'est pas devenu beaucoup plus possible. Et ce que disait Ismaël sur les 95% des gens qui trouvaient que leur situation personnelle, c'est pas seulement une perception, c'est une réalité. Les gens ne mentent pas sur leur
situation personnelle. Mais ça veut dire que si avec Emmanuel Macron et le progressisme qu'il incarne, ça ne change pas, l'alternative, ça sera le populisme.
Alors oui, mais c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est sur la base de ce constat-là, et c'est aussi pour expliquer, pour proposer une manière de garantir que ce qu'on pense avoir fait et réalisé se produise réellement dans les faits. Et donc pour réduire le décalage entre la réalité de ce qui est voté et puis la réalité, à ce stade qui n'est pas arrivé, de ce qui est délivré aux Français.
Vous expliquez que beaucoup de Français sont victimes de l'immobilité géographique, de l'immobilité économique. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Par quelle structure, par quelle responsabilité?
On pense que c'est à la fois le résultat des transformations que l'économie, que le monde ont connues, donc la mondialisation, la révolution numérique.
Et vous puis pensez c'est que aussi, la mondialisation est un facteur d'immobilité?
En fait, l'immobilité qu'on décrit, c'est celle qui condamne beaucoup de ceux qui n'habitent pas dans les métropoles à rester en dehors des métropoles, alors que les métropoles aujourd'hui concentrent la plupart des opportunités. En soi, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on ne puisse pas choisir sa vie correctement si on n'habite pas dans une métropole. C'est contre ça que nous, on se bat. Donc c'est le résultat de certaines évolutions globales du monde, et puis c'est aussi le résultat de politiques qui ont été menées par le passé, à la fois par la gauche et par la droite, et qui les ont conduits à servir plutôt leur clientèle que leurs valeurs.
Je trouve que c'est un très bon exemple pour conclure de ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire, on voit bien que c'est un domaine, les inégalités territoriales, qui étaient impensées et par la gauche et par la droite. On voit bien que c'est un sujet qui est au cœur de la révolte des Gilets jaunes. Et c'est pas pour rien que ça venait des ronds-points qui étaient éloignés des centres-villes. C'est un sujet sur lequel on a fait des choses. Avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est la plus grande réforme de redistribution territoriale qui a été faite depuis je ne sais combien de temps. Parce que quand on payait 400 euros à Paris, on payait 1200 euros à Limoges, pour ne prendre qu'un seul exemple. Et c'est un sujet sur lequel on n'est probablement pas allé assez loin encore. C'est un sujet qui est devant nous, et dans le livre, on fait quelques propositions sur ce sujet pour redonner précisément des opportunités et des possibilités au territoire.
Est-ce qu'il y a un problème de communication du président Macron aussi? C'est peut-être ça aussi le sujet, pour finalement mieux expliquer, mieux comprendre, et puis qu'il y ait moins de parasites à travers les petites phrases, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet?
Peut-être, mais je pense que c'est trop facile, quand on est au pouvoir, de dire qu'il y a un problème de communication. Parce que souvent, la phrase d'après, c'est de dire, du coup, il y a eu un problème de pédagogie. Du coup, tout ce qu'on a fait est sans reproche, c'est juste que les gens ne l'ont pas bien compris. Nous, c'est pas du tout ce qu'on dit. On dit le cap était le bon. On a pris un certain nombre de projets de loi, de textes, qui vont transformer la vie des gens. Mais par contre, ça ne vient pas assez vite. Il y a une part de ce délai qui est incompressible. Tout le monde peut comprendre que ça ne change pas le pays du jour au lendemain. Mais il y a une part qui dépend de nous. Et c'est vrai qu'il faut changer les méthodes, la façon pour l'administration de transformer la vie des gens, tout ce qu'on met dans l'idée de mobiliser la société pour avoir un changement beaucoup plus rapide.
On a l'impression que devant ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, et puis les commentaires qu'il y a eu, et puis les réseaux sociaux, etc., qu'on assiste en ce moment à une explosion de haine, comme on n'en avait pas connu depuis longtemps. Comment est-ce que vous évaluez ça, et comment est-ce que vous expliquez ça ?
Alors, je pense que c'est vrai. Je pense que la violence politique a beaucoup progressé ces dernières années. Je pense qu'elle est due à la fois au sentiment de frustration qu'éprouvent légitimement beaucoup de personnes, et qui est né du décalage entre ce qu'on leur promet et puis ce qui est la réalité de leur vie. Et puis, ce décalage-là, cette frustration, elle est instrumentalisée par les populistes. Et ils ont fait de la violence, à la fois verbale, mais aussi parfois physique, en tout cas déclarative, un des éléments de leur stratégie.
Populiste à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche.
Absolument. Et donc ça habitue l'ensemble du corps politique, mais aussi l'ensemble de la société, à un niveau de violence qui n'était pas là avant et dont il est difficile de sortir après.
Dernière partie des grands témoins d'RTL dans un instant. A tout de suite.
RTL Soir, les grands témoins
avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel.
Dernière partie des grands témoins avec les ex-conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien et David Amiel à l'occasion de leur livre « Le progrès ne tombe pas du ciel » manifeste donc chez Fayard.
Alors Ismaël Emelien, on a beaucoup dit que votre départ de l'Élysée était lié à l'affaire Benalla, qui est l'autre grande affaire avec les gilets jaunes. Je ne les mets pas au même niveau, mais enfin elles existent toutes les deux. Et votre nom apparaît plusieurs reprises dans le dossier Benalla. Est-ce que vous êtes parti vraiment à cause de ça ?
Non.
Alors, à cause de quoi ?
Pour pouvoir défendre le livre qu'on a écrit, avec une règle que nous, on a respectée depuis le premier jour, lorsqu'on travaillait avec Emmanuel Macron à Bercy, qui était que la seule personne qui a une parole publique, c'est le ministre, ou le candidat, ou le président. Donc on ne peut pas être conseiller du président, et puis répondre à vos questions sur ce plateau, et défendre les idées
personnelles. Il a lu le livre et il l'a aimé ?
Il a lu le livre, je crois qu'il l'a aimé, en tout cas il nous a encouragé à le publier.
Et sur l'affaire Benalla, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir fait circuler des images qui ont été récupérées de façon illégale. Ce que vous avez répondu à la police, c'est que vous ne saviez pas qu'elles étaient illégales. Vous étiez dans votre rôle en les faisant circuler, ces images ?
Oui, absolument.
C'était quoi, précisément, pour votre rôle ? C'était la défense d'Emmanuel Macron ?
Oui, mon rôle,
c'est que... En faisant circuler ces images ?
Oui, mon rôle, c'est qu'à un moment où il y a une crise, à l'évidence, que dans cette crise, le président de la République et l'Élysée sont pris à partie, sont critiqués, mon rôle est d'organiser la riposte face à ça.
Quand vous débriefez l'affaire Benalla, évidemment, à l'époque, vous ne saviez pas, ou en tout cas, vous n'étiez pas supposé connaître exactement tout le profil d'Alexandre Benalla, mais vous dites quoi, rétrospectivement ? C'est plus simple de faire le match une fois qu'il est terminé, mais vous vous dites quoi
C'est sûr que, connaissant tout ce qu'on sait aujourd'hui, les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées, c'est évident.
Mais tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu des dysfonctionnements, d'ailleurs, le gouvernement le reconnaît. Vous, quel dysfonctionnement ? Parce que vous, l'avantage, si j'ose dire, c'est que comme vous étiez à l'Élysée, vous envoyez concrètement le fonctionnement. Puisque vous étiez dedans, où voyez-vous les dysfonctionnements ?
Je vous donne un exemple.
Oui.
On a découvert à cette occasion qu'il n'y avait pas de procédure de départ qui soit codifiée. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui...
Un départ d'un membre...
Pour ceux qui n'étaient pas fonctionnaires.
Non, y compris pour ceux qui sont fonctionnaires. C'est-à-dire le fait de rendre, y compris sa carte professionnelle, son passeport, son téléphone, etc.
C'est quelque chose qui n'était pas codifié,
qui n'était pas suivi par le service RH, etc. Ça ne date pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est quelque chose qui préexistait depuis bien longtemps. C'est un exemple de quelque chose qui, à l'évidence, est un dysfonctionnement, mais qu'on n'avait pas mesuré avant parce que personne n'est encore parti.
Quand le Sénat pointe des membres du cabinet d'Emmanuel Macron, parle de protection d'Alexandre Benalla par l'Élysée. Tout ça, c'est un jeu politique pour vous ?
Absolument.
Il n'y a aucun fondement, selon vous ?
Je crois qu'il n'y a absolument aucun fondement. Et je pense que le fait que des collaborateurs du président aient été entendus en séance publique par la commission d'enquête du Sénat leur a permis de montrer de manière parfaitement claire qu'il n'y avait pas eu de dissimulation ou de protection particulière.
Alors, sur un sujet tout à fait différent, vous commencez le livre en disant « Nous ne sommes pas des élus politiques et nous ne souhaitons pas le devenir ». Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
D'abord, on va, pendant les prochaines semaines et les prochains mois, défendre ce livre partout où on peut. Donc dans les médias, bien sûr, mais aussi et surtout partout en France. On va essayer d'aller...
C'est-à-dire faire des conférences
nous invite, bien sûr, et puis aller discuter avec les gens. Nous, on attend avec beaucoup d'impatience aussi les retours que les gens nous feront, les critiques, les suggestions, les ajouts.
Vous mettez un mail, d'ailleurs, pour vous écrire.
Tout à fait.
Les progrès ne tombent pas du ciel.
Faut le lire jusqu'au bout.
Protonmail.com.
Exactement. Et donc vraiment, toutes les remarques sont les bienvenues. Et puis on va aussi le faire à l'étranger. Parce qu'on considère, et c'était un des points centraux de ce livre, qu'il y a quand même un paradoxe aujourd'hui qui est que les populistes nationalistes s'unissent. On voit Marine Le Pen avec Matteo Salvini, on voit les liens entre Trump, l'extrême droite européenne et puis la Russie, et que trop souvent les progressistes qui, normalement, plus vocation à s'unir à travers les frontières, eux sont restés l'arme au pied. Et donc on ira aussi avec ce livre dans les différents pays européens, particulièrement avant les élections.
Alors justement, à propos de l'Europe, vous écrivez dans le livre « Si l'Union européenne n'est pas un super-État, alors elle peut être à géométrie variable ». Une Europe à géométrie variable, est-ce que ça n'est pas d'une certaine façon intérioriser la dislocation ?
Non. Nous, ce qu'on considère que le problème avec l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle fait tout un peu, mais rien vraiment. Et donc, elle est un irritant dans beaucoup de sujets, elle empêche de faire dans beaucoup de sujets, il y a beaucoup de normes, de bureaucratie, et puis il y a beaucoup de sujets sur lesquels elle devrait être beaucoup plus efficace et beaucoup plus allante, et sur lesquels elle n'obtient pas de résultats. Et la raison de ça, c'est son fonctionnement. C'est son fonctionnement qui permet aujourd'hui à un pays de bloquer tous les autres.
Il y a quand même des méthodes qui existent, notamment depuis le traité de Lisbonne, et qui permettent ce qu'on appelle des coopérations structurées, etc., où les pays qui sont volontaires pour avancer sur un sujet peuvent le faire.
Oui, à des conditions qui sont d'un formalisme et d'un niveau d'administration et de bureaucratie encore plus élevé. Donc nous, on estime qu'il faut dégraisser un peu tout ça, qu'il faut permettre aux pays qui le souhaitent de se mettre en coalition sur des sujets qui les réunissent. Et ça peut être des coalitions à géométrie variable. Sur la sortie du glyphosate, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avancer plus loin, comme la France a décidé de le faire, avec d'autres pays européens qui souhaitent le faire, même si l'Union européenne en tant que telle préfère prendre un peu plus de temps.
Vous serez dans la nouvelle campagne d'Emmanuel Macron pour un nouveau mandat ?
On ne sait pas où on sera dans 3 ans.
Vous ne dites pas non, en tout cas.
Non, bien sûr que non.
Et pour conclure, vous avez été assez critique, avec quelques mea culpa, sur les 2 ans du quinquennat. Si vous aviez à mettre une note sur 20, sur votre travail à vous, depuis ces deux ans.
Ah, sur notre travail à nous ?
Oui, donc c'est donc le travail collectif, quoi.
Je crois qu'on en serait vraiment les pires juges.
Ouais. Mais non, je ne crois pas. Non. On est souvent bien placés pour se juger. Vous avez la moyenne ?
On ne note pas une copie au milieu de l'examen. Je veux dire, on est à 2 ans, un quinquennat, ça dure 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été engagées au début, en sachant que ça prendrait du temps aussi. Et donc honnêtement, ça n'a pas beaucoup de sens. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, ça c'est clair.
En tout cas, on continuera nous aussi à se battre jusqu'au bout.
Merci à tous les deux. Le progrès ne tombe pas du ciel. Manifeste donc chez Fayard, David Amiel, Ismaël, Emilien. Merci à vous.
Merci beaucoup.
À demain, Alain.
À demain.
Dans un instant, le flash de 20h et ensuite, ce sera Jacques Pradel. À tout de suite sur RTL.